Eh ben merci au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération Anarchiste. Et Orbi comme Urbi, sans sponsor ni publicité. Alors pour vos cartes de soutien, vos cartes d'auditeurs, une seule adresse. Bah faut fréquenter la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Bamelot, dans le 11e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi à partir de 14h. Et c'est le métro République, sûrement. On est bien sûr Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on court. L'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Franck Ballandier.
Bonjour.
Bonjour, pour son Apollinaire en prison, l'édition du Castor Astral.
C'est ça même.
C'est ça. Il faut quand même saluer Monique qui nous a gratifié d'un superbe feuillage en cabine, ça vaut
bonjour,
le coup.
Bonjour Monique.
Vous n'avez pas perdu votre temps, vous êtes quand même venu pour quelque chose aujourd'hui. Bon... Écoutez-moi bien,
oui.
Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nu et que le voix sinistre ulule Guillaume, qu'es-tu devenu ? Le Lazare entrant dans sa tombe, au lieu d'en sortir comme il le fit, adieu, adieu, chantante ronde, ô mes années, ô jeune fille. Alors, rassurez-vous, je ne l'ai pas appris pour l'émission, depuis l'âge de 16
vous
ans.
Vous la connaissez.
Par cœur.
Par cœur.
Ouais. Voilà. Magnifique, non ?
Ce sont des poèmes qui ne sont pas très connus en plus, hein. C'est pas ce qu'on connaît, hein. C'est bien sûr le premier abord, mais c'est vrai que la suite de À la santé, écrite par Apollinaire... pendant son incarcération à la prison de la santé, peu de gens connaissent.
C'est le thème du livre. C'est le thème du livre.
C'est
le livre.
C'est
le rapport. En fin de compte, c'est le rapport qu'a eu Apollinaire avec cette histoire qui a défié la chronique, quand même.
Ah bah très clairement. Hein, ça a même soulevé un véritable tollé parmi le milieu intellectuel du début du XXe siècle. Tous les plus grands noms de la littérature, des arts, d'une manière générale, ont pris parti. Il y a eu un comité de soutien. Enfin, c'était un truc énorme. Alors un comité de soutien que par hasard, enfin, on retrouve tous les grands noms, Aragon, etc. Qui était encore tout jeune hein, à l'époque, puisque ça se passe en 1911, mais il manque un grand absent quand même, c'est Picasso, qui pourtant était quand même très clairement impliqué dans cette affaire. Quoi. Mais on connaît un peu Picasso par ailleurs, c'était quand même pas un garçon très très...
On va voir tout ça en détail,
on a le temps.
Avant de commencer à faire ce voyage, je conseille aux gens qui nous écoutent, avec l'éditeur Nada, Victor Serge et ses critiques sur Nietzsche. Alors Victor Serge, je ne sais pas si vous le situez un peu. Serge Kibatchich, il est né en Russie, encore en Russie. Il va participer à tous les mouvements politiques. Il va même faire partie de la bande à Bono. Il va être le compagnon de Rirette Maître Jean. Et il y a une très belle photo sur, où on voit Benjamin Perret, André Breton, à Marseille en 40, qui tentent de s'embarquer pour les États-Unis, de trouver un visa. Ça, c'est Victor Serge.
Belle brochette.
Belle brochette. Alors, Victor Serge, c'est toujours très ambigu. Au niveau de la vie, au niveau de la pensée, et son Nietzsche qui vient d'être publié là, c'est pareil. On est en plein dans le sujet, rassurez-vous. C'est écrit en 1917.
Oui,
et 1917, Nietzsche est mort depuis 17 ans. Et
d'accord.
On n'a pas encore tous les documents, on n'a pas encore tout ça. Et donc il y va vraiment à tâtons.
D'accord, hein? Très bien.
Donc c'est la première des choses. Pourquoi je dis j'insiste sur 1917 ? On va s'écouter une chanson d'abord, et puis on va voir à quel point, en fin de compte, Apollinaire, c'est pas l'autre siècle. Attention.
Coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, longs de silence, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure, passe les jours. Passe les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, vienne la nuit, sonne le.
Yvette Giraud, jolie voix, non ? C'est Léo Ferré qui l'a fait.
Ouais, très très belle.
Qu'est-ce que vous pensez des
la mine ? Je ne connaissais pas du tout cette version, ouais. Donc magnifique.
Hein. Ferré mettant musique apollinaire.
Ah, c'est quand même pas dégueulasse.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal du tout.
C'est pas mal. Hein.
Non, et puis il y a une véritable, pour le coup c'est bête de dire ça, mais il y a une véritable musique qui est rajoutée à la musique même du poème lui-même, donc c'est remarquable.
Alors pourquoi ça m'a intéressé votre bouquin ? Pourquoi ça m'a intéressé cette chanson ?
Ouais.
Sous le pont Mirabeau coule la chienne, comme vous le dites.
Oui, ça j'ai écrit ça. Ouais.
Oui, mais attention, vous savez d'où ça vient ça ?
Allez-y.
C'est un calembour, non ? Je connais quelqu'un qui emploie ce calembour depuis très très longtemps. C'est Jimmy Gladiator qu'on peut retrouver. Qu'on verra à Publico le vendredi 12 octobre à 19h.
Et qui signe un livre, je crois.
Non, il ne signe pas le livre, il vient parce qu'il a des grands problèmes de santé. Personne ne l'a vu depuis très longtemps, on lui fait une soirée. Hein, 12 octobre, le 19h à Publico, 145 rue Amelot. Non, pourquoi ça m'a intéressé cette chanson de Oula Passé pour commencer ? Parce que Ferré a fait la musique en 53. Ouais. En 54, il va composer l'oratorio sur le mal-aimé. Il faut pas être sorcier pour comprendre qu'on vient de fêter les 50 ans de mai 68, c'est la porte d'hier. Mais il y a moins qui sépare la mort d'Apollinaire de la mise en musique.
Ça, par contre, j'avais pas capté ça. Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà. Donc, on est en plein dans quelque chose qui appartient vraiment au siècle.
Pour moi, de toute façon, Apollinaire, c'est pas le XXe siècle. C'est la littérature d'aujourd'hui, quoi. Voilà. Et ce qui est assez marrant, puisque vous dites, vous en parlez, c'est qu'aujourd'hui, on en est au centenaire de sa mort. Mm-hmm. Enfin, on va le fêter, si j'ose dire fêter, d'ailleurs. On va le commémorer, donc, dans quelques semaines, maintenant.
Donc, vous avez écrit ce livre à Pau. C'est quand même très familier, aux éditions du Castor Astral. Une belle couverture, d'ailleurs, très maligne, avec un petit œil. La question la plus simple entre vous et moi, il vous est sympathique ou pas, Apollinaire ?
Alors, c'est quand même... C'est un ami intime et un ennemi intime à la fois, parce qu'en fait, en travaillant sur lui de manière un peu poussée, je me suis rendu compte que c'était quand même un personnage un peu particulier, qui était à la fois mondain et un petit peu anarchiste, hein, puisqu'il fréquentait d'ailleurs les milieux anarchistes de l'époque. Et que dans...
enfin, ça, c'est un peu la réponse à la conversation hors antenne de tout à l'heure. On s'aperçoit que d'Octave Mirbeau à Apollinaire, tout le monde baigne dans le milieu anarchiste. Il y en a pas mal. Hein.
Début du XXe siècle, on se on dit tous de l'anarchisme. Bien sûr,
jusqu'à Paul Claudel qui a soutenu les attentats anarchistes.
Absolument,
hein.
Absolument. Voilà. On n'est pas loin. Ben en plus, il y a l'affaire aussi Dreyfus qui n'est pas loin. Donc il y a toute une prise de conscience à ce moment-là. Mais pour en revenir à Apollinaire, donc ce monsieur, plus j'écris sur lui, j'en suis à mon troisième en fait, plus j'écris sur lui, plus je le trouve pas antipathique, mais un peu agaçant quand même sur les bords. Parce que justement, il y a ce côté mondain qui est très très agaçant.
C'est pas un voyou du tout.
Il a voulu être voyou. On le voit très bien dans ses rapports avec Sandra, par exemple. Sandra a été un véritable voyou pour le coup. Il a voulu faire un peu comme lui, mais il n'en avait pas les moyens, quoi. Mais bon, il a été à la marge, on va dire. À la marge d'une certaine voyoucratie qu'il n'a jamais atteinte, comme Sandra l'a atteinte, ou comme d'autres l'ont atteint à ce moment-là, quoi. Voilà. Pour moi, donc, c'est un personnage un peu ambigu de ce point de vue-là.
Il ne faut jamais faire des délits de sale gueule, parce que c'est très dangereux. Entre la gueule de Sandra, de baroudeur, et la gueule de bon bourgeois d'Apollinaire...
Ouais, mais je crois que... Enfin, je ne crois pas, je suis sûr. Moi, je dis qu'il a une tête... Il a une tête de cul, Apollinaire, un peu. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment une tête très, très intéressante. Ça, c'est un point de vue extrêmement personnel. Mmh. Mais je trouve qu'il n'est pas très beau. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que, par exemple, le rapport qu'il a avec les femmes, c'est un séducteur né. Il savait jouer de son petit sourire et de ses yeux tristes à longueur de temps. Et finalement, c'était... En ça aussi, c'était un personnage assez trouble, quoi. Il avait à la fois ce côté bon enfant dans ce qu'il était physiquement. Hein. Il était un peu balourd, comme ça. Et puis, en même temps, c'était un personnage qui savait, zigzaguer dans ce début de siècle, quoi.
Avant de poursuivre, on règle son compte à un concept qui, moi, me sort par tous les pores de la peau, c'est le concept de poète maudit qu'on a souvent accolé à Apollinaire à cause de sa mort et à cause de pas mal de choses. C'est quelque chose qui est... Non ?
Alors, pour moi, pas du tout maudit.
Moi non plus.
Alors, pour moi, pas du tout maudit. Et notamment, son passage en prison, où j'en parlais, toute l'intelligentsia du début du XXe siècle est présente derrière lui pour le faire sortir de prison. Il est très, très bien introduit.
Quand on vous lit, c'est très people.
Ah ben, mais je l'ai voulu. Il y a un côté... Je l'ai voulu comme ça. C'est-à-dire, j'ai voulu montrer que ce début de XXe siècle, finalement, n'était pas si éloigné que d'une autre, et que finalement, en effet, on était déjà dans une forme d'apparence, et que pour réussir dans le monde des lettres, il fallait aussi passer par un certain nombre de passages obligés. Hein. C'est le cas de le dire, quoi.
Je vais vous lire un tout petit passage, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, on verra bien. Alors, à quelques sympathies électives... que le porte envers les aides de cette espèce à grande curiosité naturelle, il est pour sa part beaucoup moins bien placé pour les séduire ou les retenir. Pour peu qu'il ait à cause d'eux quelques démêlés avec la société, il tombe dans l'enfantillage, n'hésite pas pour se disculper à côtoyer le ridicule, mais d'emblée les rieurs de leur côté, quand victime de l'intérêt qu'il avait porté à ce Gino Pieri. Au point de donner asile à deux statuettes phéniciennes que celui-ci avait dérobées au musée du Louvre, Apollinaire en 1913 se voit impliqué dans le vol de la Joconde. Il pleure, écrit, d'un mauvais vers plaintif, sollicite de ses amis des certificats d'honorabilité.
Alors,
vous savez qui a écrit ça?
Je ne sais pas qui a
écrit
ça.
André Breton.
André Breton, il se gourre un petit peu.
Oui,
là.
Allez-y.
1913, c'est en 1911 que
bien
ça se passe.
Corrigé, bien sûr.
Et c'est pas Gino Pieri, c'est Géry Pierret. C'est presque pas.
Non, mais c'est bien
pareil.
Corrigé, c'est bien.
Oui, parce que André Breton, faut pas déconner. Donc
c'est bien. Ça, bien sûr.
Mais cela dit, pour le reste, pour le fond de l'histoire, c'est ça en effet. Hein. C'est-à-dire que au mois d'août 1911, la Joconde disparaît du musée du Louvre.
On va raconter tout ça. Non, mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est effectivement, il y a un désir. Alors, moi, je déteste le concept de poète maudit, ça me sort partout.
Surtout pas lui.
Surtout pas lui, même les autres. Je veux dire, c'est le concept le plus récupérable par la bourgeoisie. On lui pardonne parce qu'il est poète ou une chose comme ça, c'est absolument zéro. Alors qu'on en parlait hors antenne, Apollinaire qui a aussi fait, Verlaine qui a aussi fait de la prison est une merde intellectuelle. C'est-à-dire, il bat sa femme, il bat son gosse, il bat sa mère. Il va même dénoncer.
Ouais.
Un affreux. Donc là-dedans, il n'y a pas de pardon qui arrive. Mais ce qui m'intéresse, chez Apollinaire, c'est qu'il a une volonté d'être honorable.
De bout en bout, et jusqu'à sa mort. Il s'engage, on peut en parler très, très, très rapidement, il s'engage dans le conflit de 14-18, alors qu'il n'a pas forcément besoin de s'engager, il est russe. Il est russe, pourquoi il s'engage dans ce conflit? C'est pour obtenir la naturalisation française. Ce qu'il souhaite, c'est être français, réellement reconnu comme français. C'est un personnage, il veut obtenir une honorabilité qu'il n'a jamais eu réellement de par sa mère, qui est aussi une petite courtisane. Mais c'est en ça aussi qu'il est intéressant. Vous me posiez la question de savoir si je le trouvais sympathique ou antipathique. C'est tout ça à la fois, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les personnages un peu comme ça, un peu à la marge, un peu troubles, qui en effet sont parfois complètement dans leur siècle et puis dans les bonnes habitudes. habitudes, dans les bonnes manières. Et puis à côté de ça, à un moment donné, ça dérape, quoi. Parce que je peux en raconter un paquet d'anecdotes sur ce monsieur.
Mais on va le faire, on va le faire, cher monsieur. Non, mais de toute façon, la recherche de l'honorabilité chez les poètes, c'est pas nouveau. Regardez Rimbaud qui finit en Abyssinie et qui veut passer son baccalauréat et qui veut devenir un honnête marchand qui va prendre une épouse. C'est extraordinaire, ça.
C'est vrai. Bah, Rimbaud, puis tous, hein, finalement, même ceux, justement, dont on dit qu'ils ont pu être maudits, comme Baudelaire aussi. Enfin, ce sont des gens qui sont
demande tous à la recherche. L'Académie française.
Oui,
bien sûr, ils veulent être reconnus.
Donc, c'est pour ça que, enfin, je pense pas qu'il faille, d'une manière générale, mettre les poètes sur un piédestal, et surtout pas. Et encore moins notre Apollinaire, qui est pourtant révéré dans les écoles, appris par cœur, sous le pont Mirabeau, entre autres, bien évidemment.
La chienne, je vous rappelle, quand même.
ça c'est autre chose. C'est une petite... Mais je suis ravi de savoir que ce monsieur gladiateur utilise les mêmes expressions.
Bon, le 12 octobre à 19h à Publico. Bon, la question de la sympathie, c'est vrai que c'est quand il traîne sa mélancolie, notre Apollinaire, un soir de dubeux brune, un voyou qui ressemblait à mon amour, c'est pas le même, même s'il il a le génie de la langue, ça, il n'y a aucun problème, que celui qui va trouver la guerre absolument inspiratrice, quoi.
Complètement. Ah oui, d'ailleurs, tous ces poèmes...
Ils sont la cocarde, quand même.
Hein. Oui. Mais c'est un nationaliste convaincu, hein, très, très clairement. Hein. Mais c'est pareil, c'est un nationaliste convaincu qui n'était pas au clair par rapport à l'engagement qu'il pouvait avoir, par rapport à ce conflit. C'est parce que Sandrard s'engage avant lui. Il y a toujours eu cette fameuse rivalité entre les deux poètes. Sandrard dit « Moi, je veux me battre pour la France. » Et donc, du coup, Apollinaire se dit « Bah ouais, il ne faut pas que je reste un peu sur le côté, là. Il faut que je fasse la même chose que lui, quoi. » Donc, on est toujours dans une sorte de compétition intellectuelle, comme ça. Il voulait être le meilleur, hein, Apollinaire. Il voulait être le meilleur des poètes de ce début du XXe siècle, là, très clairement, quoi. C'est ça qui a été amusant dans ce livre-là, à travailler et puis à décrire, quoi.
Vous fixez Arthur Cravant ?
Oui.
Voilà, Arthur Cravant qui était quand même un côté beaucoup plus voyou, beaucoup plus explosif, et qui avait... il avait traité Apollinaire de juif. Le juif Apollinaire. Bon, alors, même déboire avec Arthur Cravant, qui ayant écrit dans un article, le juif Apollinaire eut la surprise de recevoir les témoins de ce dernier. Bien que leur déclare Arthur Cravant, je n'ai pas peur du grand sabre d'Apollinaire, mais parce que je n'ai que très peu d'amour propre. Je suis prêt à faire toutes les réfictations de possible et à venir. Monsieur Guillaume Apollinaire n'est point juif, mais catholique romain. Afin d'éviter à l'avenir les méprises toujours possibles, je tiens à ajouter que monsieur Apollinaire, qui a un gros ventre, ressemble plutôt à un rhinocéros qu'à une girafe, et que pour la tête, il tient plutôt du tapir que du lion. Qu'il tire davantage sur le vautour que sur la cigogne au long bec.
Excellent.
C'est magnifique, non ?
Je connaissais ce passage, quoi. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que il a provoqué Arthur Cravant en duel, et ça s'est soldé par un échec ridicule. Et son ami Picasso, ami ennemi Picasso, puisque encore une fois ils sont à la fois les deux, l'a croqué le sabre à la main par rapport à cette histoire-là. Et donc ça a fait le tour de Paris, et tout le monde se moquait de Monsieur Apollinaire qui voulait se venger et venger son honneur, etc. C'est très drôle, quoi.
Il ne meurt pas de ses blessures de guerre.
Il ne meurt pas de ses blessures de guerre.
Il y a un côté dérisoire et parodique. Il meurt de la grippe espagnole.
Il meurt de la grippe espagnole, oui. Alors bon, en effet, je pense que ça n'a pas dû l'arranger des masses, le fait d'avoir quand même respiré les gaz moutardes, etc. Mais, et puis il avait une santé vacillante à son retour en France, enfin en France, à Paris plutôt, pardon. Il avait une santé vacillante, mais ce qui s'est passé après, en effet, n'a rien à voir avec ça. J'en parle dans mon petit livre là, que je vous ai donné tout à l'heure, qui n'est pas encore sorti, le Paris d'Apollinaire. Il y a tout le passage justement sur la grippe espagnole à Paris, qui faisait plus de 300 morts par jour. Enfin, c'était énorme, quoi. Et donc, c'est des choses qu'on ne sait pas beaucoup, mais en tout cas, Apollinaire est mort d'une manière assez foudroyante. C'est-à-dire, en une semaine, il est emporté, quoi. Il y a son pote Sandrard qui va le visiter.
Très content, d'ailleurs.
Oui, absolument. Et deux jours après, il est mort, quoi.
D'accord. Le Paris d'Apollinaire, bon, c'est Saint-Germain.
C'est Saint-Germain.
Qui n'a rien à voir avec celui de maintenant. Hein.
Alors, ben, on est bien d'accord. Non, alors c'est ça qui est intéressant dans ce petit bouquin, si je puis me permettre de le vanter. Il commence à Saint-Lazare. Son premier quartier parisien, c'est Saint-Lazare et tous les petits bistrots du coin. Il y en a encore qui existent aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, tout à fait par hasard, pas tout à fait, mais il rencontre Picasso. Il découvre le bateau Lavoir et donc il émigre vers Montmartre. Troisième lieu, à un moment donné, Montmartre devient un peu désuet, très, très bizarrement, en ce début de siècle, et ils émigrent tous vers la Closerie des Lilas, vers Saint-Germain, et de fait, en effet, son dernier quartier, ça va être Saint-Germain-des-Prés, quoi, très clairement, puisqu'il meurt,
il meurt
au boulevard Saint-Germain. Ouais. Voilà, quoi. Mais allant à l'inverse de Sandrard, qui lui a fait de vrais voyages, au bout du monde, hein, et Apollinaire, lui, se retrouve à faire des petits voyages, finalement, des petits voyages d'arrondissement en arrondissement. Il va jusqu'à Auteuil, qui est encore la banlieue de Paris. Et finalement, là aussi, il rate un peu son côté aventurier qu'il aurait aimé avoir. Alors, bien sûr, il est allé un petit peu en Belgique. Bien sûr, même, on le soupçonne d'ailleurs d'avoir ramené avec son frère, qui était plus jeune que lui, des diamants pour le compte de sa mère. Enfin, il était un petit peu délinquant quand même. Hein. Mais toujours, encore une fois, en se préservant d'une vraie mauvaise réputation. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, encore une fois.
Érotomane.
Érotomane, ah ouais, carrément.
Oui, ça, on peut le dire.
Ah ouais, bah, érotomane, ah ouais, oui. Non, mais son rapport avec les femmes était...
Les 11 000 verges, très beau texte. Hein.
Absolument, très beau texte.
Il ne faut pas croire que c'est de la grosse plaisanterie, c'est très beau texte.
Et je pense qu'on n'a jamais fait mieux en matière de pornographie.
Est-ce que vous aviez vu, il y a quelques années, 2-3 ans, j'avais fait, 4 ans plus peut-être, j'avais fait l'émission, un metteur en scène avait réalisé la Maison de la Poésie, les 11 000 verges.
Non.
Ah, c'était remarquable.
Ouais,
et là, le texte prenait totalement son envol.
Ouais, ouais. Ah non, mais pour moi, alors pour le coup, j'ai lu pas mal de textes érotiques et pornographiques, mais on n'a pas fait mieux, quoi. Ou pire, ça dépend de quel côté on se place. Non, c'est remarquable. C'est remarquable. C'est même indescriptible. Et moi qui écris quand même des romans, qui tente d'en écrire le plus possible jusqu'à ce que je puisse plus, j'aimerais me colter à cet enjeu de faire mieux que les 11 000 verges. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible.
Lorsque notre ami, qui n'est jamais venu sur Radio Libertaire, parce que Monique ne veut pas faire la technique, quand il va venir, c'est notre président Macron qui est venu... était élu, il a choisi cette dame, je crois qu'elle a la condition féminine, Madame Marlène Schiappa, qui a écrit, elle, un texte érotique.
Ah oui,
un texte érotique sur les grosses et la jouissance, un truc comme ça, qui est une catastrophe.
Ah ouais.
C'est une laideur bourgeoise,
ah ouais,
qui est une catastrophe.
Ouais.
Ça doit être, je crois que c'est la collection La Musardine. Cherchez ça...
La Musardine,
voilà.
c'est pourtant une bonne maison
oui, mais
pour les textes érotiques.
Oui, c'est retiré quand on...
Voilà. Ouais, ouais.
On ne fait pas de la littérature érotique en mettant simplement son cul, il faut la langue. Il faut
donc elle est mauvaise en littérature, elle est mauvaise comme ministre, elle est mauvaise partout.
Elle a des beaux cheveux, ça peut la réserver. Si ça peut la sauver, quelque part, elle a des traits
on
ne
peut pas tout avoir de fou.
Parce qu'on va faire, on va descendre dans cette apôtre,
hein, ouais, avec plaisir.
Astral, mais avant, on va écouter quelque chose, si Monique veut bien.
Bien sûr.
Apollinaire, Marie-Sibylle. Dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir, offerte à tous en tout mignonne, puis buvait l'as des trottoirs. Très tard dans les brasseries bonnes, très tard dans les brasseries bonnes, elle se mettait sur la paille pour un maquereau rouge et rose. Il était juif et sentait l'ail, et l'avait venant de Formose. Tirait d'un bordel de Shanghai, tirait d'un bordel de Shanghai. Je connais gens de toutes sortes, ils n'égalent pas leur destin. Indécis comme feuilles mortes, leurs yeux sont des feux mal éteints. Leur cœur bouge comme leur porte, leur cœur bouge comme leur porte. Dans la haute rue à Cologne, elle allait et le soir, offerte à tous en tout mien, puis buvait l'as des trottoirs. Très tard dans les brasseries bas, très tard dans les brasseries bas.
assez superbe, Léo Ferré, Marie Zibine. Alors, aussi personnage multiple, hein, lorsque Ferré, dont on connaît les revendications anarchistes, on le connaît avec ses cheveux longs, on le connaît avec le groupe Les Zous, les groupes Zou, pop, là, en 54, lorsqu'il crée le Mal-Aimé, puisque c'est le prince Rainier qui lui donne l'orchestre, le prince Rainier qui lui ouvre l'opéra de Monte-Carlo, qu'est-ce qu'il veut faire, notre bon Léo? Il fait de la musique bien française, bien propre, avec un costard, avec des chœurs bien dans la ligne, bien. Il veut vraiment être dans le, faut l'avouer, il veut être reconnu.
Tout à fait.
Il veut être honorable.
Ben, je pense qu'il l'a voulu l'être jusqu'au bout. Et puis bon, il était quand même. Enfin, je connais pas suffisamment sa vie pour affirmer plein de choses, mais il a quand même aussi payé des impôts ailleurs qu'en France.
Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, je ne vais pas par là. Ça, c'est pas des choses. Alors, puisqu'on parle d'impôts et de ça veut dire de pognon, l'édition Stock. J'espère qu'on en parlera un jour. Annie Lebrun a publié Ce qui n'a pas de prix. Et elle s'attaque vraiment à la marchandisation de ce monde, et c'est vraiment très très intelligent et très très bien fait. Et comme nous avons aujourd'hui Monique à la technique fidèlement comme toujours, non seulement elle fait des sauts par Walter Benjamin, mais aussi par Élisée Reclus. Élisée Reclus, grand géographe, et qui a non seulement un style au niveau de l'écriture, on parlait du langage, il ne s'agit pas d'avoir des pensées, il faut aussi savoir le dire, mais qui a toute une vision, qui a toute une vision de la société. Ce n'est pas Monique qui va aux Reclusiennes qui me dira le contraire. Je me suis amélioré, Monique. Hein, voilà.
Et bon. Annie Lebrun, d'ailleurs, qui a animé des ateliers d'écriture en prison, à plusieurs reprises. Ouais. Et à la santé, justement, particulièrement, mais pas que. Ouais, il y a quelques auteurs comme ça qui s'intéressent à ce monde un peu perdu et un peu, pour le moins, marginalisé et inconnu.
Alors, puisque c'est le sujet, là, c'est une partie du sujet, parce qu'on va y revenir sur la décomposition et sur la narration et la fiction. C'est aussi parce que vous avez travaillé en prison que vous avez fait cet Apollinaire en prison ou pas ?
Complètement. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que bon, moi, je suis issu des années. Je vais aller très vite sur mon parcours, hein, mais ça pourrait être long. Mais je suis issu des années 70, et donc quand j'ai choisi de travailler en prison, c'était un vrai choix. C'était pas par dépit ou par par défaut. C'est quelque chose que je voulais faire, et donc je me suis intéressé bien évidemment au bon côté des choses, si tant est qu'il y en ait en prison. Donc j'ai commencé comme éducateur, et à un moment donné de ma carrière, j'ai voulu évoluer et je suis devenu responsable de communication. On peut se poser la question de savoir comment l'administration pénitentiaire peut communiquer et en quoi elle communique. Et c'est justement la question que je me suis posée à ce moment-là, et j'en ai parlé à mon directeur de l'époque. Je lui ai dit, écoutez, il y en a marre de parler des prisons toujours de manière extrêmement négative, même si en effet il y a des choses à dire de manière négative. Et si on essayait de voir de quelle manière un certain nombre de personnalités ont pu être amenées à connaître la prison, de quelle manière elles l'ont vécue, quoi. Et donc, comme j'étais au courant de cette histoire d'Apollinaire qui avait fait 5 jours donc, à la maison d'arrêt de la santé au début du siècle, 20e, je me suis dit, allons-y, faisons une enquête. Et donc, j'ai proposé au directeur de faire une enquête approfondie sur le sujet. J'ai retrouvé la cellule d'Apollinaire, celle où dans laquelle il a été incarcéré.
Celle où est inscrite Dédé de Ménilmontant pour meurtre.
Absolument. Absolument, ce qui est vrai.
C'est absolument magnifique. Ah, hein.
Dédé de Ménilmontant pour meurtre. Et alors, il y a aussi autre chose, il a découvert dans cette... il en parle, hein, très précisément de cette citation, mais il a découvert aussi un poème qui est inscrit sur le mur, et il va le recopier sur un cahier d'écolier, parce qu'il va écrire, hein, il a la possibilité d'écrire, et un poème, bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est une sorte de cri d'un ancien détenu qui est passé aussi dans cette même cellule, et que lui, donc, va retranscrire et va proposer donc au public par la suite, quoi. Donc, très clairement, Apollinaire à la santé, ça m'a été, entre guillemets, d'accord, inspiré par mon boulot.
D'accord. Oui, Genet était en tôle. Ah bah, Genet, lui, au début, quand il va en tôle au début, je présume qu'à la fin de sa vie, il n'aurait pas réagi comme ça, car il y a une véritable évolution chez Genet. Hein. Ouais. Il trouve du plaisir en prison. Il trouve une jouissance en plaisir. Complètement. En prison, bien sûr.
Absolument. Et puis, bon, alors ça, Journal du voleur, bien sûr, mais pas que le Journal du voleur, Notre-Dame des Fleurs, puisqu'il parle de la petite requête. Petite requête, pas très loin d'ici. Hein,
Verlaine a été en prison puisque ce salaud a tiré sur Rimbaud.
Puis plein d'autres. Hein. Rimbaud est allé en tôle. Très peu de temps, mais il est allé en prison, dans une prison aujourd'hui disparue. Alors, on peut même se poser la question de savoir si être poète, c'est pas déjà être un petit peu voyou, et si ça ne mène pas parfois jusqu'à la prison.
Enfin, Arthur en tout cas, Cravant disant rien qu'une poésie qui serait simplement voyou.
Je pense que certaines poésies le sont. Ouais.
Michel Fardoulis-Lagrange, je pense que vous ignorez. Vous connaissez Marie-Louis?
Oui, bien sûr.
Très bien, qui était mon grand. grand ami. Lui a passé un an sous l'occupation pour propagande communiste.
Ouais.
Il a réussi à sortir un texte enroulé dans du papier, comme ça, qui a donné plus tard les années solennelles.
Comme André Chénier, c'est très marrant ce que vous dites, parce qu'André Chénier, qui lui, pour des raisons, donc c'était au moment de la Révolution française, hein, il a été guillotiné, il a mal fini. Mais pareil, il a réussi à sortir certains de ses poèmes en petits rouleaux, un peu comme votre ami, justement. Mmh. C'est très marrant.
Alors, vous avez fait une enquête préalable avec ça.
Absolument,
voilà.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est une fiction sans être une fiction.
Le début est un petit peu romancé. La partie prison n'est pas une fiction, sauf que je me suis mis à la place du poète en me disant mais de quelle manière il peut réagir à un certain nombre de passages obligés que lorsqu'on rentre.
De quel droit on a de se mettre à la place de quelqu'un.
C'est dur.
Alors voilà, on va raconter toute l'histoire de la Joconde et tout, on a le
allez-y,
temps.
Allez-y,
hein.
allez-y.
Mais avant, là, parallèlement, il y a ce livre qui me suit, c'est Lettres clandestines, c'est La mort d'Alban Berg. Mmh. Et pendant effectivement 70 pages environ, l'auteur Pierre Mertens vit l'agonie de. Il vit lui-même. J'ai pas fait ci. Et malheureusement, et là on en reparlera par rapport à votre livre, parce que la démarche est un peu similaire. Malheureusement, à la fin du bouquin, alors que c'est vraiment très 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 bien, Berg parlant de sa maîtresse, Berg parlant de ses rapports avec Schoenberg, tout ça. C'est très bien. Et malheureusement, à la fin du bouquin, Pierre Mertens éprouve le besoin de se justifier. Il dit « Ne pas écrire de biographie. Trop de respect pour la vie des gens, trop le goût d'imaginer aussi. » Voilà.
Ouais. C'est un pari, c'est non seulement culotté, mais en plus c'est prétentieux. Ça pourrait être considéré comme prétentieux de se mettre à la place d'eux. Mais c'est aussi une manière de vivre ou de revivre ou de faire revivre le personnage. Moi, j'ai besoin de cette proximité-là. J'ai écrit un autre bouquin qui traite de la déportation des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a quelques années, il y a 4 ans. Et donc, le personnage principal est un jeune homosexuel qui se retrouve déporté. Et la question que je me suis posée, c'est mais comment on peut survivre dans un lieu comme ça, à ce moment-là, lorsqu'on est déporté. Et donc, très clairement, j'ai utilisé le présent. Très clairement, je me suis mis à la place d'eux. Je ne sais pas si le livre a réussi, c'est pas mal de le dire. C'est au lecteur. Mais en tout cas, pour moi, c'est il y a certains moments où il est nécessaire d'être dans la peau d'eux.
Vous savez aussi bien, moi, comme le note à Gamben, que les gens qui sont revenus des camps n'ont pas pu raconter. Donc si c'est vous qui racontez, vous êtes dans une fiction.
Moi, j'aime la fiction pour ça. Alors, ce livre-là, à peau, vous avez raison de le dire, c'est à la fois du vrai et du faux. D'ailleurs, c'est à chacun, à chaque lecteur, de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que finalement, c'est aussi très amusant de perdre à certains moments le lecteur, de lui dire démerde-toi avec ça, c'est à toi de faire le travail. Moi, je sais ce qui est vrai là-dedans. Il y a un certain nombre de choses qui sont vraies. Il y en a certaines autres qui ne sont pas si évidentes. De déterminer si elles sont vraies ou pas. C'est ça qui est amusant, c'est de laisser une part de travail au lecteur, parce que si c'est tout mâché, on est dans le people, justement, dans ces cas-là. Alors moi, je pense m'être mis d'une certaine manière dans le cas d'un écrivain qui parle pour le people, mais en même temps, en étant dans quelque chose de... En vivant les choses, vraiment, en les vivant de l'intérieur, quoi.
Mais c'est Apollinaire en vous.
Ah bah carrément,
c'est,
ouais.
C'est la fameuse phrase de Breton par rapport à Vacher, il dit « Jacques Vacher est surréaliste en moi
».
Là, c'est Apollinaire en
moi. Oui, bien sûr. Non, mais comme d'autres écrivains ou d'autres poètes, c'est quelqu'un qui m'a marqué, bien évidemment. On a chacun nos personnages comme ça, un petit peu mythiques, et qui nous habitent et qui nous imprègnent, quoi. Mais là, je le disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est hors l'antenne d'ailleurs ou si c'est au micro, mais j'en suis à mon troisième livre
sur... Alcool, c'est,
j'ai pas bu ce midi.
Ah bon, d'alcool.
Ah oui, d'accord. Premier titre, Eau de vie. Du recueil alcool. Non, tout ça pour dire que bon, finalement, je me suis aussi beaucoup amusé dans les personnages. Enfin, peut-être que vous en parlerez, mais tous les personnages secondaires, je les trouve en tout cas pittoresques et ils me permettent aussi de parler du siècle, de ce début de siècle, de le faire revivre aussi, quoi. C'est ça qui est marrant quand on écrit. Sinon,
avant de raconter quand même l'histoire, Est-ce que, puisque c'est divisé en trois zones, ouais, hein, votre livre, les zones à cause d'Apollinaire, ouais, première zone, le sourire de l'ange, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Le sourire de l'ange, c'est la date 1911,
c'est ça ? 1911, c'est le vol de la Joconde.
C'est le vol de la Joconde.
Et puis, c'est l'incarcération d'Apollinaire.
Deuxième zone, c'est la mort.
C'est la mort, c'est les derniers jours de la guerre, la grippe espagnole.
Le fameux cliché où les jeunes, ça c'est vraiment un cliché usé, ouais. où la foule crée Amor Guillaume. Alors, Amor Guillaume.
Amor Guillaume.
Remarque qu'il n'a pas eu de peau non plus.
Et donc, le Guillaume en question, c'est bien sûr Guillaume l'empereur, donc c'est pas du tout le même Guillaume, quoi. Mais oui, mais c'est une réalité, ça a été reconnu et dit, quoi.
Et la troisième zone, alors est-ce qu'on va pas tomber dans la troisième zone, dans une justification de ce que vous avez fait ? C'est-à-dire un peu comme Mertens, est-ce que si vous aviez fait simplement un bouquin, attendez, je vais... Vous seriez arrêté, je ne sais pas, à la page, je ne sais pas, moi, 137, le livre était plus petit. Ouais. Pourquoi avoir éprouvé ce besoin, en fin de compte
C'est vraiment une bonne question. Bon, en effet, je me suis posé la question.
D'accord.
Ouais, je la suis posée moi-même quand je l'ai écrite. J'avais envie de revenir dans le siècle, je veux dire le siècle nôtre, celui qu'on est en train de vivre là. Il y avait une autre raison qui était une raison purement, j'allais dire, géographique et temporelle, c'est que la prison de la santé a été fermée il y a quelques années.
Voilà. Et alors,
elle est en train de réouvrir,
en
ce moment.
Oui,
elle est en train de réouvrir. Et alors, ce qui est intéressant, ça c'est pour la petite histoire, c'est que tout a été détruit, y compris bien sûr la cellule d'Apollinaire, et je me suis dit, il faut absolument témoigner de ce qu'a été ce moment, et de ce qu'a été ce moment d'une prison qui est en train de fermer, d'accord. et en train d'être détruite. Ce qui est encore plus rigolo, c'est que donc, il n'y a plus rien de vivant, enfin, plus rien de l'ancienne prison qui subsiste, hein, maintenant ce sont des bâtiments en béton, etc., sauf le mur d'enceinte. Parce que le mur d'enceinte, on l'a gardé en état, parce qu'il est considéré comme il est classé monument historique. On peut se poser la question de savoir comment on peut classer historique un mur de prison. Mais voilà, c'est comme ça. Mais c'était intéressant aussi de témoigner d'une prison vide en train d'être détruite et de déboucher sur un monde, parce que bon, l'enfermement, il va perdurer, quoi. C'est très clairement, quoi. Donc c'était aussi une manière pour moi. Bon, j'ai vécu 40 ans dans ce milieu-là. J'y ai vécu avec toutes mes contradictions, très clairement, parce qu'évidemment, j'étais du bon côté des choses. Mais de quelle manière je pouvais témoigner, je peux me le permettre aujourd'hui, puisque je ne travaille plus dans ce milieu-là, quelle manière je pouvais témoigner de l'absurdité de ce système et des contradictions, justement, qui le font vivre, quoi. Voilà.
Ce qu'on va faire, comme Monique est une femme de goût exquis, je vais lui demander de choisir au hasard parmi les deux disques que je lui ai remis tout à l'heure, la chanson qui lui plaît. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous faire honte, monsieur. monsieur Franck Ballandier, vous m'avez passé moi ceci pendant que Monique cherche quelque chose de court, Monique, si possible, parce qu'on a beaucoup de choses. Alors. Je vous remercie pour votre franchise, quand même. Vous savez très bien où vous venez ici. Alors, numéro 12, septembre de 2018. Laurent Joly, PMA, bienvenue dans un monde sans père, faites le taire. Et cet extrait, ceci, d'une revue, on fait la directrice générale se nomme Marion Maréchal, Le Pen. Hein, bon, voilà, donc on sait bien, voilà. Et vous avez eu un article favorable par rapport
quasiment, à votre livre. Quasiment élogieux.
Élogieux. Hein, rentrée littéraire, un poète à l'honneur. Bon, voilà, donc on
rendez-moi ma...
Je vous rends votre torchon, c'est monsieur. Je vous rends votre torchon, cher monsieur. Et ça, cette discussion, on l'a eu tout à l'heure. On a éprouvé un peu hors antenne, là. Sur ce côté qu'a la poésie, etc., qu'il y a quelque chose moi qui me choque énormément, pas que j'ai me revendiquer de la poésie engagée, pas du tout, hein. C'est rien de pire que ça, la fameuse phrase c'est pas la poésie d'être libre mais c'est au poète, c'est vrai qu'il y a un côté dangereux, côté extrêmement dangereux, faut pas faire de la poésie ou de l'art ou de religion.
On est bien d'accord. Non, ce qui était intéressant, je l'ai fait un peu parce que j'aime bien provoquer les choses aussi, sinon je vous en aurais pas parlé, bien évidemment, cette revue que je ne connaissais pas. Mon attaché de presse me dit, t'as un super article, il faut pas en parler pour l'instant parce que c'est pas encore paru. Je te le passe en avant-première. Je lis l'article en question et je le trouve franchement bien. Enfin, je me dis, ah ouais, chapeau, super quoi. Et donc, je me renseigne sur la revue en question, l'incorrect, et je m'aperçois en effet que c'est une revue d'extrême droite. Et Et donc ma femme tout de suite me dit, mais tu vas pas publier ça sur, sur ta page Facebook, c'est inadmissible, etc. Et je me suis posé la question autrement, c'est celle que vous posez d'une certaine manière, c'est est-ce que quand on est poète, est-ce qu'on peut être... Vous posez la question autrement, vous, mais est-ce que, moi je pose la question concernant Apollinaire, est-ce que Apollinaire est un poète de droite ou un poète de gauche? Et finalement, c'est une mauvaise question, parce que c'est, ça va... Voilà. Voilà, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que la poésie se situe ailleurs. Mmh. Elle ne peut pas appartenir, par définition pour moi, elle ne peut pas appartenir à une idéologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, très clairement. Vous avez parlé de liberté tout à l'heure. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est supérieur à tout ce qu'on peut dire par rapport à un texte ou à un poète. Mmh.
Mais, ce danger, moi, je le promène depuis 40 ans.
Eh ben, ça m'étonne
depuis
pas.
40 ans, je n'ai pas résolu le problème, je vous disais la dernière fois. Alors là, je n'ai pas de problème, je peux en parler sans aucun problème. Je n'ai aucune sympathie pour Céline, ni pour ce qu'il, pour ce qu'il écrit, je m'en balance complètement.
Donc
j'ai fait la préface de ce voyage au bout de l'abject, publié par Patrick Lepetit. Voilà, effectivement... Est-ce qu'on peut lire un Céline dans son codé, on en connaît la biographie, qui est une saloperie née. Un jour, j'ai fait une émission ici, il y avait une dame dont la famille a été déportée. Je lui raconte l'histoire de Roger Vaillant, qui avait proposé de flinguer Céline. Elle me dit, bah, alors, il aurait dû le faire. Quoi. Il n'y a pas un style qui vaut un camp de concentration, quoi, c'est pas possible.
C'est sûr. Mais moi, ça m'interroge quand même, cette histoire, parce que... Je vous en parlais hors antenne, mais on peut le dire là. Puis merde, on est à Radio Libertaire, donc j'ai le droit.
La radio sans mail, sans Dieu ni mail de la Fédération Anarchiste.
Je sais que vous avez publié des poèmes, des poésies, entre autres, dans une revue qui s'appelle Les Hommes sans épaules, qu'on ne peut pas considérer comme une revue de droite du
non,
tout.
Non, pas du tout. Hein
j'ai publié des poèmes dans cette revue de la même manière. Et je me suis aperçu, parce que je me renseigne toujours sur toutes les personnes que je rencontre, c'est mon côté flic peut-être.
Allez-y.
Et je me suis rendu compte que la personne dont je ne donnerai pas le nom, qui a signé cet article dans la revue L'Incorrect, est aussi une personne qui a signé des poèmes assez remarquables dans la même revue.
D'accord.
Je
serai directeur de revue.
Dites-moi.
Je ne publierai pas ce type.
Ah, alors ça c'est
voilà,
encore.
Point.
Ah ouais, c'est encore
point,
une question.
Voilà.
Ouais. Ça,
voilà,
c'est encore
voilà,
une question.
Voilà.
Ouais. Mais je voulais vous en parler.
Non,
parce
mais
que
c'est très bien.
Je
très
me
bien.
Dis, voilà, finalement, bon, vous n'avez pas encore donné votre avis sur le texte, mais si vous m'invitez, je pense que vous l'appréciez plutôt.
Nous allons en parler.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Radio Libertaire m'invite et que j'ai les honneurs d'une revue d'extrême droite. Mmh. Et là, je pose la question, je n'y réponds pas, quoi. Mmh. Mais c'est une vraie question. Donc, Apollinaire était-il de gauche ou de droite?
Avant qu'on écoute je pose pas le problème comme ça du tout.
Non, je sais, mais je le fais.
Je me suis fait avoir, figurez-vous, je me suis fait avoir il y a quelques années. J'étais à Chartres, qui n'est pas à côté, et il y avait une émission sur Jacques Prévert. Mmh. Une émission extrêmement sympathique, extrêmement bien foutue. J'étais sûr que c'était Radio Libertaire. Et c'était Radio Courtoisie.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la machine à récupérer est telle.
Ben c'est clair.
Alors, il y a quand même un angle qui serait très intéressant, c'est d'envisager tout ça sous l'angle d'une totalité.
Ouais.
On n'est pas dans le sécable, mais là, il faudrait faire trois émissions, quatre émissions, et on passerait par des critères qui seraient beaucoup plus.
C'est une
bien
question,
sûr.
Ça aussi. Bien sûr. Parce que, en fait. Moi, je place, j'espère que mon message est bien clair, je place la poésie au-dessus de tout. Pas que, hein, mais d'une manière générale, la création.
La démarche de gens d'extrême droite ou la démarche de ce type est indissociable de l'existence de Walter Benjamin. Walter Benjamin est un poète qui s'est suicidé pour des raisons politiques bien.
Voilà. Donc, après, bon. Et je pense que donc, pour vous en avoir parlé là maintenant de cette manière-là, je pense que demain, je vais provoquer sur ma toute petite page Facebook un débat sur le sujet,
d'accord,
pour voir de quelle manière les gens réagissent à ça.
La religion est très dangereuse et la poésie, en tant que religion, est aussi pareillement dangereuse.
Surtout pas de récupération, quoi. Surtout pas, quoi.
Monique, merci. Vous avez bien choisi, j'espère, Monique. Je vous fais confiance, je vous en prie.
L'été 68. L'été, comme un enfant s'est installé sur mon dos, et c'est très lourd à porter un enfant tout un été sans cigale, avec des hiboux ensoleillés, comme les enfants du mois de mai qui reviendront cet automne après l'été de 1789.
Allez, Franck Ballandier, Apollinaire en prison, le castor astral, ouais. Au 01 43 111 89 40, avec ses clés qu'il fait teinter, que le geôlier aille et revienne dans la cellule d'à côté, en effet, couler la fontaine.
Couler la fontaine.
Magnifique, là. Donc, c'est l'histoire de cette fameuse histoire qui a commencé quand ?
Ben, qui a commencé pour monsieur Apollinaire, on peut dire monsieur. De temps en temps, en août 1911, au moment où la Joconde disparaît donc, du musée du Louvre, à la suite déjà de quelques vols qui ont été commis, et dans la foulée, un tout petit peu après, début septembre, deux autres statuettes phéniciennes, celles-là, donc sont subtilisées du musée du Louvre. Le préfet de police n'y tient plus, il ordonne une enquête, le président de la République s'en mêle aussi. L'enquête est diligentée avec un juge qui s'appelle Monsieur Drioux. Dans le livre, je l'ai un peu changé, parce que vu ce que j'en fais, il fallait absolument préserver la famille s'il en reste, en tout cas les descendants. Et puis, on remonte jusqu'à Apollinaire, on s'aperçoit que si c'est pas lui qui a volé la Joconde, il a au moins détenu deux fameuses statuettes.
Petite parenthèse, ouais, si c'est pas un inventé, on rentre aussi comme dans un moulin au musée du Louvre à l'époque.
Ah bah clairement.
Il n'y a pas de système d'alarme, il n'y a rien.
Pas de système d'alarme, les œuvres ne sont pas protégées. Alors c'était justement, on a considéré que le voleur potentiel, une fois que Apollinaire a été libéré, on a pu considérer que c'était justement quelqu'un qui avait été un ouvrier, qui avait été employé par le musée du Louvre pour protéger les œuvres, pour les mettre sous verre de manière à les rendre plus difficilement subtilisables.
Les gardiens sont un peu bourrés.
Ah bah, en tout cas dans mon livre,
vous savez que les gardiens de prison, les gardiens de musée, après la guerre et après les guerres de Indochine et Algérie, vont être recrutés parmi des gens qui vont revenir, c'est-à-dire des gens traumatisés, des gens esquintés et tout. Et ils vont faire la terrible erreur, c'est que d'armée, ces gens-là, ils avaient des pétards. Ouais. Surtout les gens de la nuit avaient des pétards. Il a fallu que deux, je crois que c'est au musée du Louvre d'ailleurs, complètement bourrés, finissent par se tirer dessus. Pour qu'on enlève les pétards.
Ah, je connaissais pas.
C'est très beau, c'est très très beau. Ça. Bon, allez-y, voilà.
Par une belle journée de septembre, du mois d'août 1911, j'imagine que c'est réellement Apollinaire qui a volé la Joconde avec son pote Géry Pierret, qui lui sert de secrétaire occasionnel, enfin de factotum comme on dit. Hein. Et puis Picasso, qui comme d'habitude est un petit peu, un peu trouillard, et puis qui sait aussi se mettre de côté quand il le faut, qui est là en deuxième ligne, mais qui n'apparaît pas très clairement dans cette histoire. Et donc le vol a lieu cette fameuse nuit, en pleine canicule, mais sous un orage extrêmement puissant. Et j'en ai fait une sorte de déambulation, enfin j'espère assez drôlatique, de ces deux personnages, Apollinaire un peu lourdeau, trempé comme une soupe, avec son pote Géry Pierret, et puis errant dans les salles du musée du Louvre, passant devant en effet les gardiens complètement bourrés, parce qu'ils ont fêté le départ à la retraite de l'un d'entre eux, et finissant quand même au bout d'une longue déambulation, après s'être quasiment perdu dans ce musée du Louvre, ils finissent par tomber sur la Joconde, et donc ils la piquent en se disant tiens, ça peut toujours servir, et puis ils en profitent donc pour piquer les deux statuettes qui elles sont considérées comme des statuettes qui vont être vendues, et ça c'est la réalité historique pour le coup, qui vont être vendues à Picasso, qui va s'en servir pour faire ses études architecturales et picturales, et d'ailleurs il le dit lui-même, ça c'est intéressant, et ça c'est la réalité, il le dit lui-même quelques temps plus tard, dans une interview qu'il donne à la télévision, il dit « Rappelez-vous ces deux statuettes que Apollinaire a volées au musée du Louvre ». Entre parenthèses, il dit que c'est carrément Apollinaire qui les a volées. Hein. Il va pas par quatre chemins.
Il l'a balancé.
Ah bah carrément. Carrément. Ah bah oui,
il le balance en quelle année il le balance ?
Ça, il le balance dans les années 50.
Bien plus tard, oui,
bien
c'est ça.
Tard,
donc,
bien
oui,
plus
là,
tard.
Là, là, là,
bon,
là,
bah,
il
n'y
a pas...
Donc,
il y a prescription dans
le... Il y a prescription, mais quand même, quoi.
Ouais.
Et donc, il dit, bah, si vous regardez bien les oreilles de mon tableau, les Demoiselles d'Avignon, vous verrez qu'elles ressemblent étrangement aux oreilles des deux statuettes qui ont été volées par Apollinaire. Et de fait, moi, je me suis procuré les reproductions de ces deux statuettes. En effet, on s'aperçoit que, visiblement, elles lui ont servi de modèle, entre guillemets. Donc là, il y a une partie, c'est pour ça que ça m'a amusé, il y a une partie historique réelle.
Il y a quand même un côté ouais. balourd de voir Apollinaire, ouais. c'est une espèce de rhinocéros déambulé ouais. dans le Louvre
ça,
la
c'est
nuit.
C'est une sorte d'éléphant dans un magasin voilà. de porcelaine, c'est un peu ça. Ouais. Et puis finalement, il se retrouve embringué dans une histoire complètement invraisemblable qui le dépasse. Et là, il se fait tout petit quand il se retrouve en prison, parce qu'évidemment, il va passer par un certain nombre d'étapes que je connais par cœur, puisque encore une fois, je connais bien la prison. Et là, pour le coup, j'ai rien inventé.
Ce fameux verre là,
il a fallu me mettre nu.
Il se met vraiment nu.
Ah bah c'est voilà.
C'est l'humiliation totale de quelqu'un
C'est l'humiliation totale. C'est la fameuse fouille à corps voilà. que tout le monde subit lorsqu'il rentre en prison. À savoir donc, on se baisse, on retire son pantalon, on monte son cul au surveillant et le surveillant va regarder, va mettre éventuellement mettre un doigt pour être très clair, pour voir s'il n'y a pas d'objets qui sont dissimulés. Et Apollinaire n'y échappe pas. Il a beau être Monsieur Apollinaire, poète déjà reconnu, il y a droit comme les autres.
D'ailleurs, ce poème que moi que je à la santé est un poème de l'humiliation. J'ai toujours pensé que non.
Mais
oui.
Absolument.
D'accord.
Ah ouais. Oui. Mais vraiment. Vraiment. C'est pas pour moi. Hein, après, on peut en discuter. Pour moi, c'est pas ce qu'il a fait de mieux en tant que poète. Mais c'est exactement ça. C'est le poème de l'humiliation. Où en effet, à plusieurs reprises, en plus, il tente de rétablir sa dignité d'homme et il n'y arrive jamais. Quoi. Hein, c'est très peu. Hein. Il y a que quelques vers qui ont été écrits à la santé. Mais il y a ce recours à Dieu. Il a jamais cru en Dieu, sauf quand il était tout petit. Puis d'un seul coup, à cause de la prison, ou grâce à la prison, comment dire, on ne sait pas, il va finir par implorer Dieu aussi. Quoi. Ce sont des vers qui n'ont pas été retenus dans le recueil Alcool.
Et vous ne croyez pas qu'on rentre toujours dans la même chose chez Apollinaire, que c'est un besoin d'honorabilité toujours, et de rédemption
Complètement. C'est en ça que je dis il a un vrai problème avec l'honorabilité et puis l'image. Il a un problème d'image.
Bien sûr, l'image.
Et on le voit bien d'ailleurs sur toutes les photos, y compris celles qui ont été prises lorsqu'il est dans le cabinet du juge d'instruction, enfin dans le couloir où il y a la presse qui est là, qui attend, qui le photographie, qui le mitraille. Il pose pour donner une image de lui qui soit une image qui corresponde à ce qu'il a envie de transmettre. Quoi. Il est avec son petit canotier, il a ce petit sourire en coin. Enfin bon, vraiment, il est toujours dans cette apparence-là. C'est pour ça que, c'était la première question que vous m'avez posée, il est agaçant, enfin, il est plus qu'agaçant, il est sympathique et antipathique, en effet. Les deux à la fois, quoi. Mais c'est un personnage, la suite de l'histoire aussi.
Donc, il rentre à la maison.
Il rentre à la maison.
Il se tapit à la maison
ouais.
et il pressent que ça va mal tourner, si j'ai bien compris.
Il pressent que ça va mal tourner. Avec son copain Picasso, il décide de se débarrasser des deux statuettes. Dans un premier temps, ils veulent les balancer dans la Seine et puis ils se ravisent. Ils disent quand même c'est des œuvres d'art. Donc ils les remettent dans un journal de l'époque qui s'appelle Paris Journal, qui d'ailleurs va publier Apollinaire par la suite sur sa détention. Enfin, il va s'exprimer.
C'est là que c'est très People, journal du soir, ou je ne sais pas si c'est un hebdomadaire ou une chose comme ça.
Non, Paris Journal, ouais, c'est un quotidien.
Un quotidien. On publie ça.
Mais oui. Et déjà, il avait déjà. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il avait déjà publié dans ce journal, il avait déjà fait des chroniques sur l'art.
Qu'est-ce qu'il a publié à Apollinaire à l'époque ?
À cette époque-là, il n'a pas publié grand-chose, en l'occurrence, vous avez raison. Il a publié des poèmes, il n'a pas publié de recueil précisément. Ouais. En 1911. Parce que, tout à fait. Et en fait, la plupart de son œuvre sera en partie publiée. Alcool, c'est en 1913. Hein, donc, tous ces poèmes-là, y compris ceux de la santé, n'apparaissent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour la petite histoire, c'est que ces poèmes, encore une fois, que j'aime pas trop, pour être tout à fait honnête, ce sont des poèmes qu'il n'avait pas décidé de mettre dans le recueil Alcool. Et c'est tout à fait au dernier moment qu'il a décidé de les inclure dans ce fameux recueil de poésie qui est quand même le plus connu de lui, quoi. Et sans doute que pour lui, ça avait du sens. Mais si vous regardez, par exemple, on va rentrer peut-être dans un débat un peu solennel, mais le premier poème qui ouvre le recueil Alcool, c'est Zone.
La fin, tu es là de ce monde ancien.
Voilà, entre autres. Voilà. Et il y a aussi quelques vers où il parle, tu es dans le cabinet d'un juge d'instruction, etc.
Très donc, bien. Et là, à un moment donné, ben, c'est très bien. Moi, je ne pensais pas passer par là, mais on va y aller.
Ouais.
Son rapport à la religion est intéressant. Quand il dit à un moment donné, je crois, vous faites de mémoire, hein, l'Européen le plus moderne, c'est toi, pape Pie X.
Alors là.
Non, c'est pas ça, non?
Non, c'est pas tout à fait ça. Je ne l'ai pas en tête. Je ne suis pas tout à fait honnête. Mais en tout cas, le recours à la religion est très, très présent. Mmh. Notamment, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, au moment où il fait ses 5 jours en prison. Et par la suite, ça va pas le quitter. Ça va pas le quitter parce qu'en effet, il s'est rendu compte que finalement... Puis il y a aussi cette histoire, pardonnez-moi, je reviens un peu en arrière, mais il a jamais connu son père. Hein. Il est né de père dénommé, comme on disait à l'époque. Et on a des bruits courts très insistants, y compris chez les apollinariens, donc les spécialistes universitaires, comme quoi son père serait un camériste du pape. Mmh. Et donc, on est dès le départ de sa vie... On est dans un rapport à la religion extrêmement étroit. Mmh. Et d'ailleurs, au tout début, il est comment on appelle ça, ceux qui servent la messe, là, enfant de cœur. Ensuite, il perd la religion de vue, très clairement, hein, puisqu'il se débauche dans un Paris de début de Belle Époque. Et puis, il retrouve cette religion, donc en effet, dans ses dernières années, le passage en prison, et ensuite dans ses dernières années.
Mais les futurs, on va parler des futuristes rapidement. Ouais, quelqu'un comme Marinetti, c'est pas pas indifférent de la Apollinaire n'est pas indifférent. Commence par l'anarchie.
Ouais,
Commence par l'anarchie et va finir dans le Mussolinisme, donc dans la réaction la plus totale. Hein.
Et d'ailleurs, celui qui va être... Un an et demi plus tard, on va retrouver la Joconde donc, en Italie. Celui qu'on considérera comme le coupable, c'est un certain Vincent Perugia, qui se déclare lui-même peintre futuriste et qui déclare avoir volé la Joconde pour justement rétablir la vérité et récupérer pour son pays l'Italie ce chef-d'œuvre qui a été injustement accaparé par la France, etc. Mais il y a tout un rapport en effet avec les futuristes et d'ailleurs il y a eu cette revendication très clairement à un moment donné anarchiste de la part en tout cas de ce personnage-là. Mmh.
Vous savez qu'Aragon va apprendre qui est son père bien des années plus tard quand il va partir. Aragon, il va donc élevé par une jeune femme.
Ouais,
jeune femme va lui faire croire qu'elle est sa sœur, quand c'est sa mère. Je crois que c'est quand il part en Allemagne, donc il est déjà très mature, c'est un jeune homme là, qui va apprendre que c'est le préfet de Rondrieux. Il est fils d'un préfet de police, je crois, quelque chose comme ça. Louis Aragon, ça doit travailler dans la tête, quelque chose comme ça, il n'y a pas...
Mais alors on vous en parlait tout à l'heure par rapport aux poètes, vous parliez de Genet, vous parliez, etc., de Rimbaud, etc. Moi, j'ai fait un travail sur tous ces poètes-là qui sont passés par la casse-prison. Et il se trouve qu'il y a une constante, sauf pour André Chénier, mais pour des raisons qu'on comprend, parce que c'était un détenu politique, c'était pas un détenu voyou, on va dire, pour schématiser. Tous ces poètes-là n'ont pas connu ou leur père ou leur mère, ou voire les deux à la fois. C'est-à-dire qu'ils sont... alors il faut surtout pas en tirer une généralité, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a fait qu'ils ont écrit, peut-être, qui était en rapport avec une absence et avec... une absence du père ou de la mère.
Le temps tournant, on poursuit notre aventure.
Yes.
Donc et la police vient le chercher. Et de suite, elle l'emmène
d'une manière assez courtoise quand même, parce qu'il faut prendre des précautions avec ce garçon, parce qu'il est quand même, encore une fois, déjà un peu connu dans le monde parisien, et donc on l'emmène... Alors moi, je lui ai mis des menottes, mais apparemment...
Il est français, de nationalité ?
Non, il est toujours russe. Non, alors c'est pareil. Alors en plus, avec son nom de famille, Kostrovitsky, en effet, on le considère comme juif, et on n'est pas loin de l'affaire Dreyfus, et donc il souffre de ça, et il s'amuse à faire comme ses petits copains, donc dans le monde des arts et de la littérature, il y a un jeu qui court en ce début de siècle qui consiste à voir parmi les gens qui vous entourent celui qui est juif et celui qui ne l'est pas. Donc c'est un véritable jeu. Et donc Apollinaire, pour se démarquer, pour dire je ne suis pas juif mais je suis seulement russe, va jouer à ce petit jeu absolument immonde qui va perdurer. On connaît la suite.
Donc il est chez le juge d'instruction puisqu'il le dit. Il le dit dans le texte.
Il le dit en plus.
Ouais. Et c'est là que ça commence à... Il commence, on va parler vulgairement, hein, il commence à avoir la balisée, à avoir la pétoche.
Ah, oui, carrément, parce que d'autant plus qu'il y a quand même des éléments assez troublants qu'il ne peut pas nier, quoi. Et toujours, encore une fois, Picasso est absent de cette histoire, c'est-à-dire que Picasso n'apparaît absolument pas. Et comme Apollinaire, pour le coup, n'est pas un méchant garçon, il ne va pas dénoncer son pote Picasso, qui pourtant est réellement dans le coup. C'est quand même lui qui a acheté les fameuses deux statuettes en question. Donc en effet, il balise un peu, mais toujours encore une fois dans l'apparence de ce qu'il souhaite rendre, parce que les flics, lorsqu'ils font la perquisition chez lui, ils lui disent, bon bah prenez quelques affaires, ça risque d'être un peu long, vous allez peut-être passer plusieurs jours en prison, etc. Et là il choisit ses faux cols, ses petites affaires, parce que il se dit, on sait jamais, ça peut toujours, il prend un canotier parce que c'est la canicule en 1911. Bref, encore une fois, il est toujours dans cette apparence-là, quoi. Et il va bénéficier quand même, malgré donc les charges qui pèsent sur lui, il va bénéficier d'un traitement de faveur, parce que bon, à un moment donné, il lui manque des affaires. Le juge donc l'inculpe et lui dit, bon, bah, vous partez en taule, hein, très clairement, mandat de dépôt à la clé. Et donc, il lui manque un peigne, il lui manque des petites choses comme ça. Et donc, on l'accompagne gentiment, les deux flics l'accompagnent gentiment jusqu'au bureau de tabac du coin à Saint-Michel, donc, parce qu'il est quai des Orfèvres. Et là, pour le coup, voilà, il y va tranquille, sans menottes, hein, et donc il va faire ses petites emplettes, et puis ensuite on le conduit en auto-taxi, comme on dit à l'époque, on le conduit jusqu'aux portes de la santé, et là commence donc le fameux périple, quoi. Alors j'ai voulu faire du juge un juge un petit peu un peu aigri, très clairement, parce qu'il n'était pas forcément dans la réalité. Donc ce qui m'amusait aussi, c'est de faire des personnages secondaires, comme les deux flics d'ailleurs, qui sont amateurs de catch, etc. Donc il y a tous ces personnages secondaires qui vont faire vivre l'histoire et qui vont me permettre aussi de parler de ce début de siècle.
Sa dernière femme, c'est Madeleine, c'est ça?
Non, sa dernière femme, c'est Jacqueline.
C'est Jacqueline.
Madeleine, c'est celle qu'il connaît lors d'une permission, qui est donc une sorte de...
Alors, parce que c'est un homme à femme, c'est quand même un sujet important, Monique. On va aborder un sujet important. Je ne peux pas faire une émission sur Radio Libertaire au 01 43 71 89 sans parler de l'essentiel. Alors, il y a la Rousse. Ouais. Il y a la Jolie Rousse. Donc on la place où, celle-là?
La Jolie Rousse, c'est Jacqueline, c'est sa dernière femme.
C'est la dernière.
C'est celle qu'il va rencontrer très tardivement. Il est déjà donc installé au boulevard Saint-Germain, donc à côté du Café de Flore.
Il la connaît très peu, par conséquent.
Et il l'a croisée dans une soirée. Ils ont parlé vaguement poésie. Elle se déclare vaguement peintre et tout. Elle n'a pas fait carrière, parce que ça se saurait si elle avait fait carrière. Mais donc, c'est dans les mondanités qu'il la rencontre, cette jeune femme.
Il y a Lou. C'est celle de la guerre.
Alors Lou, c'est celle qu'il rencontre juste avant de partir à la guerre, dont il tombe follement amoureux. C'est sans doute la seule dont il tombe réellement follement amoureux.
Et très belles lettres.
Et puis des lettres
très impudiques.
Des lettres de cul, ouais, oui. Parce que les lettres à Lou.
Vous savez ce qu'il lui... Monique, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, je ne veux pas que tu te fasses menotte. Il va dans le vif du sujet.
Et donc, il trouve avec elle, justement, Lou est un personnage central pour moi dans le dévergondage, si on peut parler ainsi, d'Apollinaire, parce que Lou, d'une part, va l'initier à l'opium, très clairement, ils vont tranquillement fumer leur petite pipe, et puis elle va l'initier à des jeux. Les 11 000 verges ont déjà été écrites, mais là, il va pouvoir mettre...
Il y a Lou, Madeleine, ouais. Il y a Madeleine.
Il y a Annie Pleden,
l'anglaise.
Voilà, et puis il m'en manque une. Il y a Marie Laurencin, bien évidemment. Marie Laurencin, qui est donc une des personnes... Alors, qui elle, pour le coup, là, c'est... Enfin, ce que j'en ai vu, moi, ce que j'en ai compris à travers mes recherches, c'est que Marie Laurencin a souffert de cette relation avec... Très clairement, c'est sans doute la seule qui a réellement souffert de cette relation avec Apollinaire. Apollinaire n'a pas été très sympa avec elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'en foutait, il était en plein essor, en pleine ascension pour sa carrière poète, machin, etc. Et donc il l'a laissé...
Sûrement amateur de parties fines.
Apollinaire ?
Oui.
Ah ben carrément, oui.
Non, mais c'est un partouzien. On est sur Radio Libertaire,
Non, mais c'est aussi pour ça que, pour le coup, il me plaît, parce que justement, il a ce côté partouzeur, très clairement, avec son ami Picasso, justement, avec Géry Pierret, le fameux troisième larron, qui va lui écrire bien après cette histoire, donc juste avant que Apollinaire meure, en parlant de rappelle-toi de nos courges, on peut se poser la question de savoir ce qu'étaient leurs courges. Enfin, il y a des noms, des mots codés comme ça qui laissent penser qu'en effet, ils ont eu plus que des parties fines et à répétition, en effet, quoi. Mais c'est ça qui fait aussi la richesse du personnage, quoi. Parce que bon, voilà, sous le pont Mirabeau coule la Seine, mais coule aussi la Chienne. Voilà.
C'est évident. Pour le temps, il nous reste 10 minutes, donc on va aller quand même. Il a fait tout ça à Apollinaire, donc il fait ses 5 jours. C'est ça, ses 5 jours ?
5 jours, oui.
Il est libéré.
Oui. Il bénéficie d'un non-lieu, mais un peu plus tard. Non-lieu qui, je précise, ne veut pas dire qu'il est innocenté. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de preuves pour dire qu'il est coupable, comme on n'en a pas assez pour dire qu'il est innocent. Voilà.
Et Franck Ballandier, il y a partout, il y a au-dessus de tout ça, un très, très, très grand poète.
Ah ben, il y a un grand poète, oui.
Qui s'attaque à la langue, au langage. Ouais, allez-y, là quand même, on va voir quelque chose. Là.
Complètement.
On sort quand même du 19e siècle, ouais. On est en 1911, ouais. Et là, il y a un truc qui se passe.
Ah ben, il abandonne, c'est quand même le premier avec Sandrart. Bon, ils ont rivalisé encore une fois tous les deux, parce qu'ils étaient contemporains, donc. Mais Apollinaire avait déjà commencé, par exemple, le fameux poème Zone, qui est le poème de la déstructuration. On supprime la ponctuation, on supprime la versification, on part dans tous les sens, on est dans la poésie, ce qu'on appelle la poésie simultanéiste, c'est-à-dire que voilà, je te raconte un petit truc, et puis tiens, je passe à autre chose, et puis je reviens en arrière, enfin bon bref...
Parce qu'il faut savoir, parenthèse de fait, que c'est très européen, hein.
Oui, bien sûr.
Parce que vous avez Mayakovsky, qui est européen,
oui,
si on prend la Russie, Mayakovsky, Marinetti...
C'est comme tous ces mouvements-là, hein, et pas seulement à cette époque-là. Tous les mouvements, en fait, ça éclot un peu partout, de manière un peu différente, mais ils sont tous justement dans cette simultanéité de la découverte. Voilà. Et donc, Apollinaire, très clairement, est le poète de la modernité, moi, c'est ce que je défends, le poète de la modernité, en même temps que Sandrart. Je les mets vraiment sur le même point, tous les deux, parce que, entre le poème Zone, dont on dit qu'il aurait été d'ailleurs écrit après celui de Sandrart, donc le nom m'échappe, celui de Sandrart. Bon bref,
c'est pas qu'à New York.
Les Pâques à New York, voilà, les Pâques à New York.
Vous l'avez en tête, les Pâques à New York ?
Non,
Dommage, parce que j'allais vous poser une question, répondez-moi pas, c'est pas grave. On arrive au même problème.
Ouais,
moi j'ai un très bel enregistrement que je passe souvent, il y a deux faces. C'est Vicky Messica, il a une diction absolument superbe. La première phase, c'est les projets transsibériens.
Ouais, ah ben voilà.
Et la deuxième phase, c'est les Pâques à New York. Et ouais. là, le problème, c'est il se balade dans New York, là. Et puis, il dit à un moment donné, Dieu, je crois plus en toi, Dieu, je crois en toi. Il joue avec Dieu. Où se situe-t-il, pareillement à Apollinaire, par rapport à ça? On n'en sait fichtrement rien. Ouais.
Mais alors là, il y a une anecdote que je cite dans le petit livre de second, là, le Paris d'Apollinaire, concernant Sandrart. Sandrart arrive à Paris, prend contact avec Apollinaire et lui dit « Voilà, j'ai un petit texte là que peut-être vous pourriez éventuellement faire connaître au Mercure de France. » Et le petit texte en question, c'est justement les Pâques à New York, quoi. Et Apollinaire, qui est en train d'écrire, mais seulement au début du texte, il est en train d'écrire « Zone », donc le fameux texte qui ouvre le recueil « Alcool », se dit « Oh purée, il y a quand même des sacrées similitudes entre lui et moi, là, sur la manière d'écrire, sur le refus de la ponctuation, etc. etc. » Et donc, il ne répondra pas à Sandrart. Sandrart réattaque après, il vole un livre d'Apollinaire, il se fait choper pour ça, il se retrouve au dépôt de police de Paris. Il appelle au secours Apollinaire en lui disant « je crois que c'est la cellule 7 du dépôt de Paris, enfin bon bref, peu importe. » Et il dit « Venez à mon secours. » Il en profite pour lui dire « Est-ce que vous avez fait le nécessaire pour mon livre, pour mon poème Les Pâques à New York ?» Et là, Apollinaire quand même finit par lui répondre. Et non, c'est pas Apollinaire qui lui répond, c'est le Mercure de France qui lui répond en disant « en substance, votre poème, c'est de la merde, enfin, ça sera jamais publié. » C'est dit beaucoup plus poliment, bien évidemment. Et donc, du coup, et pourquoi ? Parce qu'en effet, Apollinaire ne veut pas, n'a jamais présenté ce recueil, enfin ce poème, Les Pâques à New York, il ne l'a jamais présenté au Mercure de France, parce qu'il a peur justement de se faire chapeauter par Sandrart. Donc il y a toujours une rivalité entre les deux pour cette modernité, pour la reconnaissance de cette modernité-là.
Mais c'est ça qui est intéressant, parce que c'est de savoir qu'ils sont dans les mêmes milieux, ils ne se copient pas, ça, c'est, ils se
non,
copient
non,
pas,
non, non,
que tout est dans l'air du temps. Quoi.
Mais c'est ça.
La fin du Mal-aimé, Soir de Paris, ivre de jean, ivre là, on sent que c'est le fracas d'une époque, c'est le fracas d'une époque.
C'est ça, c'est ça. Et enfin, vous parliez des futuristes, exactement, c'est pareil, quoi. Il y a tout est dans l'air. En
fait. La poésie, les poésies de Cravant qui sont magnifiques, pareil, on est dans le fracas, on est dans la réinvention, dans le fracas, dans la fragmentation aussi, on fragmente beaucoup. Il ne faut pas oublier que le cubisme va fragmenter.
Carrément.
Bien sûr que oui.
Alors, sachant quand même qu'Apollinaire, à la différence de Sandrart, a toujours oscillé entre une poésie classique et une poésie moderne.
C'est vrai. Non, c'est vrai.
Voilà. Et donc, pour moi, je le mettrais presque en retrait par rapport à Sandrard, parce que, en effet, Sandrard, lui, a revendiqué la modernité, a revendiqué sa voyoucratie, a revendiqué le fait, enfin bref, un petit peu filou sur les bords, parce que vous connaissez l'histoire sur la prose du Transsibérien.
Est-ce qu'il l'a pris
La
réponse est belle.
Bah, oui,
vous connaissez la réponse?
Oui, c'est de mémoire. Peu importe.
Puisque je vous l'ai fait prendre.
Puisque je vous l'ai fait prendre, c'est ça.
Ça y est, ça est bien sorti.
Ah,
hein.
Ouais, très fort.
Guy Chambellan, qui était éditeur Racine, que j'aimais beaucoup, citait quatre vers de Sandrard, qu'il considérait comme. Ouais. Il disait : je rentre chez le pharmacien, je monte sur la bascule, ouais. Je pèse mes 80 kilos, je t'aime.
Ah, c'est magnifique.
Et, oui. Et si vous décomposez l'acte simple, je rentre chez le pharmacien, allez-y, on s'en fout.
Ouais.
Je monte sur la bascule, on sent que ça commence à se compliquer. Ouais. Je pèse mes 80 kilos et
magnifique.
Je t'aime, c'est-à-dire le je t'aime est lourd de ses 80 kilos.
C'est lui qui a créé les éditions du Pont de l'Épée, Guy Chambellan.
Bien sûr, c'est un type très bien. Bon, et ben c'est voilà, on a fait un beau voyage, non?
Écoutez, on a parlé poésie, moi ça me suis toujours ravi.
On a fait un très beau voyage, donc Franck Ballandier à Pau, c'est familier.
C'est mon pote, quoi.
Tant mieux. Voilà, le poète, on raconte cette histoire. Elle est connue, cette histoire. Moi, je la connaissais. Là, je ne me rends pas compte si c'était connue ou pas.
Elle est assez peu connue dans le détail, mais assez peu connue. Hein. Quand j'en parle autour de moi, il y a des gens. Mais il faut déjà être un petit peu intéressé par le poète, quand même, pour connaître cet épisode qui est quand même extrêmement limité et dont, encore une fois, les écoles ne parlent pas. Encore une fois, les écoles font le blackout sur cet aspect du personnage parce qu'en effet, c'est pas le Apollinaire qu'on connaît. Le Apollinaire voyou, on veut surtout pas en parler. Quoi.
Enfin, toute petite parenthèse, si je le retrouve. Attendez. C'était l'ancienne. Ah voilà, c'est celui-là, excusez-moi. En 2012, la ministre des Droits de la Femme, Nadja Vallaud-Benkhassen, s'étonnait qu'on ne raconte pas l'histoire d'amour entre les deux hommes, Rimbaud et Verlaine. Or, comme en témoignait l'exposition Verlaine emprisonnée, celle-ci était particulièrement crue. Alors, est-ce qu'on peut raconter ça à des moutards?
Pour moi, oui.
Pour moi aussi, il n'y a aucun problème. Et puis surtout, ils n'en ont rien à. Voilà. Au contraire.
Surtout aujourd'hui, au contraire. Quoi, en plus, ça va les amuser.
Voilà.
Ça va les ouvrir.
Tous poètes.
Évidemment.
Bon, alors, voilà. Donc, ça, c'est pas sorti. Le Paris d'Apollinaire, Franck Ballandier aux éditions
Alexandrine.
Moi, je vais le lire. Et Franck Ballandier à Pau, Apollinaire en prison. Castor Astral, la couverture est très ingénieuse.
Ouais, j'ai vu.
Et effectivement, cette photo d'Apollinaire avec son chien, son regard de chien battu et ce bandeau.
Son bandeau de blessé de guerre.
Il fait un peu.
C'est vrai, on a envie de le prendre en pitié quasiment.
En pitié, mais là, on se quitte là-dessus. On remercie Monique d'avoir supporté. Hein,
merci Monique, et puis merci.
C'est un cœur. Mais si on ne savait pas que c'était Apollinaire, là, on mettait D'Annunzio, vous voyez, D'Annunzio,
oui.
Par exemple, il passerait pareillement, hein, c'est-à-dire le côté guerrier de l'époque, il y a côté viriliste, il y a côté machine.
Ah bah oui, dans le nationalisme à
bien
plein
sûr.
Quoi là.
Pas le problème.
En tout cas, merci à vous.
C'est un plaisir.
Je ne sais même plus si je pense.
sur un parcours que je rumine pendant des heures. 18 trous de contradictions qui sont creusées comme des jalons. Un frisson, je suis en transe. Au plaisir et décadence. Mes pulsions éteintes de crise. Les orteils dans la prise. Hyperbole, je dégringole. Et flageole de la parole. Mes passions sont sans défense. Je ne sais même plus si je pense. C'est pourquoi la danse froide m'emporte comme une vague.
Tous les deux dans mon appartement alors. Je comprends pas pourquoi toute ta merde est comme ça. Un sujet de discussion, mes paroles qui tournent en rond. Elle me répond, je l'écoute pas, car je ne suis déjà plus là. Sur le balcon, je prends l'air, mon attitude désespère. J'aurais pourtant bien aimé beaucoup mieux me comporter. Des cernes qui apparaissent, des neurones qui disparaissent. Je me pardonne à chaque verre que je me sers. Il est de plus en plus tard, cette soirée est un vrai cauchemar. Je raconte que des conneries, je médite. Clope sur clope, je tricote des concepts de comptoir. En prenant un air savant, c'est navrant. Je fais semblant de marcher droit en regardant autour de moi, mais elle ne me croit pas, je conviens pas. La jeune femme ne me comprend plus, elle affronte, elle m'a vu écrouler sur le parquet. Par ma faute, c'est raté, je ne peux plus me relever. Je suis bien allongé, discrètement elle s'écarte, sans un mot ni remarque. Mais pourquoi elle ne m'aime me parle. J'ai pourtant montré mes dents en souriant. La jeune femme ne me comprend plus, elle affronte, elle m'a vu. Je voudrais qu'elle me rejoigne sur le sol, je me sens seul. Mais en partant, elle me toise un petit air de pitié. Elle n'a pas claqué la porte, c'est une femme bien élevée. Je regarde ma petite gueule dans le miroir, tout ce que je vois, ce n'est qu'un putain de connard. Pas besoin de faire semblant, je crois bien que la connerie coule dans mon sang. J'ausculte mes comportements pour à chaque fois me faire de beaux compliments.
Depuis des années, j'ai tout essayé pour échapper à cette fatalité. Mais je me rends à l'évidence, impossible de combattre mes dissonances. Il est vain vouloir m'améliorer, une perte de temps, de l'énergie gâchée. J'm'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mise à tour, une fois atteint le point de non-retour, une belle tétard nourrit mon désamour. J'm'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mise à tour, une fois atteint le point de non-retour, une belle tétard nourrit mon désamour. Je regarde ma petite gueule dans le miroir, tout ce que je vois, ce n'est qu'un putain de connard. Pas besoin de faire semblant, je crois bien que la connerie coule dans mon sang. J'occulte mes comportements pour à chaque fois me faire de beaux compliments. Je m'habille de beaux discours, même si plus le même. Sans mise à tour, une fois atteint le point de non-retour, une belle tétard nourrit mon désamour. Depuis des années, j'ai tout essayé pour échapper à cette fatalité. Mais je me rends à l'évidence, impossible de combattre mes dissonances. Il est vain vouloir m'améliorer, une perte de temps, de l'énergie gâchée.
Quelques annonces à faire avant le démarrage de l'émission Trou Noir. Voilà, donc vous savez sans doute que la Fédération anarchiste mène une campagne sur cette année, et sans doute elle, enfin, peut-être se poursuit l'année prochaine, contre le nucléaire et son monde, avec un temps fort au mois d'avril. Donc il y a eu un certain nombre d'événements, notamment vous pouvez toujours vous procurer le numéro d'avril du Monde Libertaire, dont un dossier central est consacré au nucléaire et à son monde, de plus de 30 pages. Je le recommande fortement, à mon avis, il va faire date, il fait date d'ailleurs déjà. Il y a aussi un livre à paraître aux éditions du Monde Libertaire, et il y a eu un week-end antinucléaire à Marseille début avril. Radio Libertaire d'ailleurs, vous pouvez y accéder dans la rubrique événements spéciaux. Voilà. Et il y a eu un certain nombre d'animations, effectivement, dans les Bois et Péricou. Il y en a eu déjà un certain nombre, donc je vous donne celle pour la fin du mois. Voilà. Alors, le jeudi 27 avril, projection d'un film à voir absolument, un documentaire « Notre ami l'atome » de Kenichi Watanabe, en présence de Kenichi. Donc, ne loupez pas ça, non seulement le film est extrêmement intéressant, et Kenichi est vraiment quelqu'un qu'on a reçu plusieurs fois, je crois, au moins deux fois, et qui était présent d'ailleurs au moment de Fukushima et de l'explosion qu'il y a eu. Enfin voilà, donc je vous conseille, si vous êtes disponible en région parisienne, d'y aller voir. Donc c'est jeudi 27 avril à 19h30. Voilà. Donc, vous verrez sur un siècle de désastres nucléaires, les mensonges d'État, et puis aussi beaucoup de témoignages et de récits de victimes. Le lendemain, donc c'est le vendredi 28 avril, alors à 19h30 aussi, comme la veille, une rencontre débat avec Jean-Marc Royer, souvent invité sur cette antenne, et notamment pour un livre incontournable, en fait, qui s'appelle « Le monde comme projet Manhattan », et qui fait le récit, effectivement, comment cette expérience scientifique de haut niveau a été faite avec la bombe atomique sur les centaines de milliers de cobayes. Voilà, et dont il y a encore des conséquences d'ailleurs aujourd'hui à travers la génétique et tout. Donc le sous-titre, c'est « Des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée du vivant ». Récit de l'histoire du projet états-unien d'élaboration de l'arme atomique. Un projet qui n'est pas un simple projet nucléaire et industriel, mais au fond un projet de société. Donc, rencontre débat avec Jean-Marc Royer, vendredi 28 avril, 19h30, à la librairie du Mont-Militaire, Publico 145, Riamblot. Et enfin, pour terminer avril, dimanche 30 avril, alors cette fois à 16h, les deux autres c'était à 19h30, après le boulot. Donc une rencontre débat avec Thierry Ribaud, qu'on a reçu aussi plusieurs fois, auteur son dernier livre, donc « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs ». Donc je vous lis une présentation rapide. À partir d'un travail d'enquête et de recherche mené à Fukushima durant plusieurs années, Thierry Ribaud orientera son intervention sur le changement d'approche qui a constitué l'administration de ce désastre dans les politiques de gestion et d'acceptation de la catastrophe, à travers notamment de ce qui a été nommé politique de résilience nationale. Donc la résilience est très à la mode un peu dans tous les pays. Il y a un ministère de la résilience au Japon, en France, il y a une journée de la résilience nationale, je crois qu'elle est en octobre, je ne sais plus, enfin il y a une commission parlementaire. Donc en gros l'idée c'est plus on prend un coup sur la gueule, plus on se renforce, mais on ne cherche pas l'origine des coups. Voilà, donc c'est OIPS. Hein. Donc là, en ce qui concerne le nucléaire, l'idée, c'est qu'il faut se préparer. Il faut se préparer, il ne faut surtout pas, quand il y aura l'accident, ne pas avoir peur. Et les gens qui survivront sont ceux qui auront été bien préparés. Voilà, c'est un peu de l'eugénisme d'ailleurs, parce que si on n'est pas résilient, bah, c'est normal qu'on disparaisse. Voilà, donc je plaisante qu'à moitié, vous verrez qu'il y a des choses absolument incroyables dans ce qui se développe autour de cette notion qui permet de se résigner à la catastrophe, accepter ceux qui les créent. Donc je rappelle que tout ça a lieu à la librairie Publico, 145 rue Mamelot, dans le 11e. Je pense que beaucoup connaissent cette librairie, ceux qui ne les connaissent pas, c'est l'occasion d'y aller. Voilà, donc j'ai terminé, vous allez voir que l'émission qui suit, Trou Noir, a un peu un rapport avec ce que j'ai dit. Merci Monique.
Merci Serge. Et avant Trou Noir, une petite pause musicale, ce sera Phrasiac, Mon Anarchie.
Mes chansons dans tes sourires, tes bras qui m'empêchent de mourir, cette route que je ne savais pas. Un beau bordel organisé, qui se fout pas mal des défilés, c'est la solitude à mes pas. Du noir aux ongles de ma folie, mon anarchie. C'est de l'amour sans les barrières, la fraternité sans frontières, les nuits, les jours que je dévore. Une règle de vocabulaire aux conjugaisons libertaires pour mieux écrire merde à la mort. Le feu dans toutes mes envies, mon anarchie. Ne va pas poser des bombes, taguer des vitrines ou des tombes, aux flics elle préfère les clous. mais au point levé des cent voix, elle joint le sien pour le combat de l'utopie contre les coups. Parce que tout pouvoir est maudit, mon anarchie. Des drapeaux menteurs qui nous bernent, elle connaît trop les balivernes, rouge sillon de la patrie. Aux églises de sang et d'or, elle préfère le maigre décor des bars des copains de la nuit. Elle vous laisse à vos litanies, mon anarchie. Elle s'endort, la liberté d'y croire encore a comme amour en étendard. Elle a partout des camarades, de mots d'espoir et d'engueulades, et des couplets pleins les guitares. Le chant de mon cœur sans partie, mon anarchie. Mais j'aurais beau te l'expliquer, te parler de paix, de respect, le mot fait peur dès qu'il est dit. Sans haine, sans violence et sans armes, ni Dieu ni maître dans ses larmes, rien d'autre qu'un hymne à la vie. Comme les trois mots sur tes mairies, mon anarchie.